problèmes?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoix. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Vous êtes à l'écoute de Radio Canu et c'est l'émission Angle Mort qui commence. Et ce soir, il va être question d'antifascisme et d'antisexisme, c'est ça?
Oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc ce soir, nous allons accueillir Camille, qui est notre invitée. Et donc, effectivement, on va parler beaucoup d'antifascisme, sans doute de sexisme et bien sûr d'antisexisme. Donc on va commencer par une petite histoire sur l'antifascisme. La formation de l'antifascisme actuellement, les groupes affinitaires, les orgas, les groupes qui existent, tout ça, hein, Camille va nous entraîner là-dedans. Le féminisme et l'antisexisme. Le sexisme et l'antifasciste et une ouverture à l'antisexisme dans les groupes antifascistes. Voilà, c'est un vaste programme, n'est-ce pas? Nous avons une heure pour faire tout ça, c'est merveilleux. Voilà, voilà ce que je peux vous dire.
Alors du coup, vous voulez qu'on lance tout de suite comment?
Je suis pas sûr qu'on t'entende.
Pas mon micro, oui. je faisais mes petits bidouilles techniques. Du coup, on envoie tout de suite un premier morceau. Et le premier morceau, c'est Camille, notre invitée, qui nous l'a amené.
C'est ça.
C'est Beretta,
un groupe de
Beretta
rap.
Beretta Antifaction, c'est ça.
Tout à fait.
Et ben, on le lance tout de suite.
Au départ des courts-circuits, au croisement des contraires, au carrefour des massacres.
Rebelles, endurcies aux jeunes fous, aux lourdes générations d'ailleurs et d'ici. Roublard ou fourbe, quand la nuit surgit, à Gotham, Beretta, à Bordeaux City, propagande à net, antifa. L'action directe en fonction du dogme ou de la secte, je pique et guette l'entaille. Indigné qu'encore de nos jours il faille. Vivre dans la crainte sur qu'ici la politique est pure. On leur assume un non-sens assure une éthique xénophobe, insuffle la peur, brise au cœur les familles, c'est pas sérieux. Génération pluriethnique, on combat l'exclusion, l'ignorance et la pensée unique. Notre force mixte, la diversité. Pas question que l'on gobe vos critères d'identité. La liste est trop longue, faut pas les laisser faire. Combien encore l'offre on a dit de charter. Raison et tout, au détriment d'une politique sectaire. Ils déportent tous citoyens, nos gosses de père. Assurément immonde, on reconnaît l'air. La pestilence du fascisme laisse un goût de merde. L'amertume à sentir aux extrêmes sombrés. Les esprits droits de cette triste nation. On appelle à la révolte, la subordination. Restons actifs, militants et assoumis. Ils sont nous la vie dans la rédition. L'antifaction. On appelle à la révolte, la subordination. Restons actifs, militants et assoumis. Ils sont nous la vie dans la rédition. L'antifaction. La vieille Europe s'appauvrit, enfin c'est ce qu'ils disent. Ils s'en mettent plein les fouilles, ils nous fient à la loi du marché. Justifie une politique qui se radicalise contre les frontières qui s'en battent les couilles de la précarité. Je veux nous faire croire que l'ennemi vient d'ailleurs. Qui m'écarte et qui suffit ça y voir la face de mon banquier. Et si tu bouges, tu résistes à un poil basané. Ils te fissent de la rondelle du bout jusqu'au dentier. Et tu es mon homme, personne respectable. Tu parles, ouais. Les politiques commerciaux moralistes à deux balles. Tout se pense, cher pays, où le consommateur a plus de droits que l'être humain. On lève le poing, on a l'honneur avec satisfaction de vous envoyer vous faire foutre avec nos convictions. On appelle à la révolte, la subordination. Restons actifs, militants et insoumis. Unissons-nous la vie dans la sédition. L'antifaction. On appelle à la révolte, la subordination. Restons actifs, militants et insoumis. Unissons-nous la vie dans la sédition. L'antifaction. Mais plus les initiatives de nos projets. Pour eux, la jeunesse devrait marcher au pas. Pensez ses droits, enfin, surtout à droite. Notre méthode, le dialogue et l'action. Nous protégeons le genre humain sans distinction. Telle que toute petite fourmi rouge, nous piquons là où ça blesse, là où ils nous attendent pas. Organiser à développer notre sens critique. Citoyens concernés par la vie politique. Nous tentons de faire sauter les barrières invisibles. Où ils continuent de nous parler. Désaxé, notre seul souhait libre, libre. Désappointé, las, de voir que rien n'a changé depuis 60 ans. Toujours les mêmes boniments, peur, hélas. Et les mêmes perdants. Et si comme moi il t'agace, que la godasse du pouvoir t'écrase la gueule chaque matin. Que tu négocies pour tes droits et qu'il te noie dans la masse. Mais qu'est-ce qu'attend? Agis, leur statut. Grâce à notre volonté et pas le contraire. L'autodétermination et la démocratie s'acquièrent. Par une constante implication de la masse en sa propre direction. A nous de trouver de vrais porte-parole. Pas des profiteurs de misère. Des gubus racistes motivés par la consommation et le profit, c'est clair. Y'a pas mal de choses à faire. Mais peut-être ensemble nous y arriverons.
Canoncier dans le double fond. Le fond fuyant le mirage. Dans lequel les chiens de garde n'apercevront que leur image. Le plus parfait des parfaits camouflage. Le trompe-l'œil épique. L'exacte réplique. Au carbone 14. Certifié authentique. Mon 20 mesures cathartique a pris le maquis acoustique. Ici la périphérie.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et c'est l'émission Angle Mort, donc cette émission dite de critique sociale.
Pas dite du tout, elle est de critique sociale.
Elle est de critique sociale, pardon. Et ce soir, donc, comme Sonia l'a présenté, on va parler d'antifascisme et d'antisexisme. Et on se dit peut-être que pour commencer, ça pouvait être bien de faire un petit historique, sur l'antifascisme. Et Sonia, ouais, va nous présenter ça.
Tout à fait. Avant même de vous présenter notre invité, hein, mais ça va venir. Je vais essayer de vous faire une synthèse de l'histoire antifasciste. Alors une synthèse. Au début, je croyais que c'était possible. En fait, quand même, il y a eu quatre grandes périodes dans l'histoire antifasciste et pas des moindres. Alors du coup, peut-être ça va prendre un petit peu de temps. Alors on va commencer d'abord par la préhistoire de l'antifascisme. Alors la préhistoire, pourquoi la préhistoire? Alors ça c'est l'auteur qui dit ça. Donc oui, je vais vous présenter le livre de lequel qui m'a inspiré, hein, tout ça, parce que c'est un auteur qui s'appelle Gilles Vergnon, qui est enseignant-chercheur. qui travaille à Sciences Po, Lyon apparemment. Il s'appelle Gilles Vergnon et il a écrit L'antifascisme en France de Mussolini à Le Pen. Donc c'est un livre que je vous recommande, hein, c'est aux éditions Pure, donc Université Ouest, je crois. Voilà, et c'est un très très bon, très très instructif livre en tout cas. Et donc lui, il démarre à partir de 1922. Jusqu'à 1934. Pour lui, c'est une première période qui voit naître le terme antifasciste. C'est-à-dire que l'adjectif antifasciste, avant, n'existait pas. Il est né à l'automne 1922. Et il a été désigné pour... il entend désigner les activités des opposants à Mussolini en Italie ou en France. Donc on est vraiment en post-après-guerre de 18 et en avant-guerre de la suite, 39.
Pardon, dans l'entre-deux-guerres,
c'est
pas drôle,
mais c'est qui me font rire. Voilà, c'est ça, l'entre-deux-guerres. Voilà. Donc, c'est l'Internationale communiste à qui l'on doit en 1922 l'institution dans une catégorie politique à part entière, l'antifascisme. C'est pendant cette période qu'inventé à la fois le terme antifasciste, donc qui met en place un répertoire d'actions collectives et un registre du discours, c'est-à-dire qui s'inscrit dans un langage commun et un vocabulaire propre aux antis. Antifasciste, évidemment. Et désormais, on décide qu'il peut être qualifié de fasciste lors des réunions de militants. Tout journal, mouvement, parti ou personnalité de droite qui se dresse contre la République parlementaire pour lui substituer soit une monarchie, dictature, république autoritaire et même n'importe quel régime, n'importe lequel, dont l'équilibre des pouvoirs prendrait nettement, pencherait nettement du côté de l'exécutif. Cette définition extensive s'est attribuée suite au regard jeté sur le fascisme italien. C'est-à-dire qu'il y avait une montée très importante du fascisme à l'époque où Mussolini montait en flèche. Voilà. Donc cette période 22-34, elle va voir croître une montée chez nous, alors en France, du nazisme, mais aussi en Allemagne. Et en Allemagne, c'est le premier acte gouvernemental d'Hitler qui rentre en la chancellerie en, je crois, 1933. Voilà. Donc ça, c'est la première période où, en fait, il n'y a pas vraiment d'action directe sur le terrain. Par contre, il y a une pensée antifasciste qui se met en place et il y a cet adjectif qui va, conscientiser toute une partie des militants. Ces militants, je vais revenir après, vous allez découvrir petit à petit qui ils sont et comment ils s'organisent. La deuxième période, 34-45, alors celle-ci, c'est vraiment ce qui est qualifié d'histoire. C'est l'historique de l'antifascisme. C'est dans cette seconde période, en fait, on voit un acte fondateur qui est la journée du 6 février 1934. 6 février 1934, ça vous dit quelque chose ? Non, pas encore. Pas encore, mais ça va venir. 6 février 1934, figurez-vous qu'il y a eu des émeutes des ligues de droite. Donc toutes les ligues de droite, en fait, se sont organisées et ont manifesté et ça a donné des lourdes émeutes, apparemment carrément sanglantes avec la police. Enfin, ça a été une vraie boucherie suite à une affaire que maintenant une jeune femme comme moi qui l'a lit en 2013 trouve assez banale, hein, quand on s'est tapé des SCA, les parachutes dorés et tout ça. Du coup, l'affaire, c'était l'affaire Stavinsky. Alors Stavisky, il n'y a pas de haine. Lui, il avait détourné des fonds publics. Il avait fait des faux bons au crédit municipal. Et ça a déchaîné toute l'opinion publique. Voilà, c'est parti de là, à la base. Et surtout, la droite a récupéré cette affaire pour déstabiliser le pouvoir en cours. Donc, c'était le pouvoir d'Aladier. Bon, on ne connaît pas trop. Et surtout, le préfet de police, qui s'appelait Schiappé à l'époque. Et en fait, l'Union nationale des combattants, l'Action française, les jeunes patriotes ont déboulé sur le parvis de la préfecture. Et ont décidé de passer à une forme de violence. Ils ont massacré, enfin ils y sont allés, quoi. C'était une bonne boucherie. Suite à ces émeutes de la droite, en fait, il y a tous les militants qui sont décidés, eux, de s'organiser de leur côté. Il y a une semaine, du 7 au 12 février, où il a été voté la grève générale. Donc ça, c'était une grande première, c'est-à-dire de tous les ouvriers, plutôt que de se liguer au mouvement de droite, a décidé qu'en fait, finalement, vu la montée du fascisme, on allait se fédérer entre nous. Et en tout cas, eux, dans un premier temps, on allait se charger d'eux, quoi, parce que ça valait. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris. Et ça, c'est le second cycle antifasciste. Parce que quand ils y vont, ils ne sont pas encore totalement antifascistes, organisés, groupés. Ce n'est pas un mouvement. C'est ce qui vient juste précéder ce second cycle. Et c'est ce second cycle qui va nous montrer... qui va se montrer lui-même créateur, donc créateur pour plusieurs raisons, parce que comme dans la lignée du précédent, donc qui était plus dans la pensée, il va développer un système idéologique qui associe un répertoire de mobilisation et des rites politiques. Le rite politique, en fait, c'est le point levé. Ça va devenir un signe de reconnaissance très important dans les manifestations qui viendra dire si on en est ou si on n'en est pas. D'ailleurs, tu peux être juste communiste, mais si tu es communiste et que tu lèves le poing, d'un coup, là, tu bascules du côté antifasciste, et là, du coup, tu fais partie de ce... de ce microcosme, j'allais dire, mais c'est pas vraiment vrai, parce qu'en fait, dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'antifascisme. Moi, j'étais très surprise de le lire. Ils étaient beaucoup plus, pas que maintenant, je ne sais pas, mais ils étaient très nombreux. Et ensuite, acculturateur. Alors, acculturateur, c'est-à-dire que suite au 6 février, donc je répète, la manifestation de droite qui a donné lieu à des émeutes sanglantes, les antifas, ils vont arriver en quelques semaines. Les antifas qui sont des individus, qui pour l'instant sont juste des individus, en quelques semaines, ils vont arriver, avant même les formations politiques, à créer un peuple de gauche. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire antifa tout de suite, pour l'instant on sera un peuple de gauche qui va être sur un idéal de défense de la République. Ça va être une transition vers la République laïque, démocratique et sociale. Ça va être des mots d'ordre, des exigences et des gestes. Toujours ce fameux point levé qui va rester historiquement jusqu'à maintenant. Cet antifascisme, lui, n'est pas inventé par le communiste, c'est-à-dire que l'adjectif même a été prévu dans l'international communiste. Par contre, cet antifascisme-là, il part pas du tout du communisme, au contraire de l'adjectif. Hein. Il est surtout porté par les milieux militants qui recoupent essentiellement la nébuleuse socialiste. Alors, nébuleuse à cette époque, c'est parce que c'était encore pas trop bien dessiné. On savait pas trop, il y avait Jaurès, bon, pas encore à cette période, peut-être même, non. Enfin, il y avait, c'est un ensemble qui associe, je vais vous le dire, qui associe la SFIO, la Ligue des droits de l'homme, des orgas monothématiques. Alors, c'est la LICP et la FNCR. Voilà, et qui partagent à défaut de programme des références communes. Voilà, c'est la deuxième moitié de l'année 34 qui fait du PC un grand parti de gauche, qui martèle des discours antifa avant qu'il ne devienne, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et pour les plus de 30 ans à venir, le plus grand parti de gauche de France. Voilà. Ensuite, on a vu la guerre arriver, hein, 39-45, Seconde Guerre mondiale. Et là, les antifas ont sans doute fait leur boulot d'antifa. On n'a plus de traces dans l'histoire de réels groupuscules antifascistes, hormis dans la résistance où sans doute... voilà. À partir de la fin 45, il y a ce troisième cycle antifasciste. Donc l'auteur, lui, dit c'est l'année zéro de l'antifascisme. Alors que pourtant, moi j'ai trouvé que dans toutes ces recherches, tout ce qu'il mettait en avant, c'était que le terme antifasciste, il était relayé largement par le Parti communiste, toujours. Un Parti communiste qui est quand même à son zénith, donc il n'a pas besoin d'en rajouter plus. Mais quand même, l'antifascisme est très présent au niveau du terme. Et c'est une fois que la guerre se termine complètement et qu'on arrive dans l'après-guerre, un an plus tard, que l'antifascisme en fait est relayé par les communistes et les socialistes. Et pour eux, l'antifascisme vient juste jouer un rôle de référence historique. Voilà. Et c'est cet antifascisme qui vient proposer une histoire finalisée, en fait, de 39-45. Là, c'est fini, l'antifascisme is dead. Mais pas vraiment. Parce qu'on le sait. Il va s'en aller tout autrement sous la 4ème République. Hein. Naissance et développement rapide du RPF, donc c'est le Parti Républicain. Républicain français, voilà, pardon, 47-51. Ensuite, on a la flambée des poujadistes, 56, le pouvoir du général de Gaulle, 58. Donc ça, tout ça, c'est des exemples, et la lutte surtout contre les ultras, puis contre l'OAS, donc ça, c'était pendant la guerre d'Algérie, 60-62. Ça a été les occasions successives de gros affrontements, qui sont très peu parus dans la presse, mais par contre, ils existent. Ils ont été là, dans les journaux intimes, tout ça, on les retrouve. Voilà. Chaque fois que le discours antifasciste reconduit les figures d'avant-guerre, le fascisme, c'est l'oppression au service des puissants et de la guerre. L'antifascisme, c'est l'unité des gauches pour défendre la paix, la République et le mouvement ouvrier. Seule nouveauté, l'antifascisme intègre de manière encore timide une nouvelle composante, l'antiracisme. Donc c'est une nouvelle composante, ça arrive en 62. Et c'est d'ailleurs là où on voit sa définition dans le dictionnaire. Et l'antiracisme, C'est une phrase. L'union des races feront la paix dans le monde. Voilà. Ensuite, on arrive aux années 80. C'est la quatrième phase, fin 62. Et là, il ne se passe pas grand-chose, visiblement. 68, alors il y a eu des gardes blancs, tout ça, repris avec l'URSS. Maintenant, voilà. Mais pas de lutte marquante, finalement, apparemment. Ce qu'on voit arriver chez les antifascistes, c'est Le Pen, en avril 2002. Donc là, ça nous paraît vachement plus tôt, alors que je pense qu'il y a des choses qui se sont faites avant. Et depuis 2002, ça entremêle continuité, rupture d'avec les phases précédentes. Mais par contre, dans les années 80, donc on apprend ça et puis après on en revient aux années 80. En fait, on se dit quand même, il s'est passé des trucs, j'ai oublié de dire. En 83, il y a eu la percée du FN à Dreux. Parce que c'est ça, en fait, qui nous intéresse aussi, c'est que l'auteur, lui, les petits groupuscules qui se sont créés après, il y est moins attentif tout de suite. Il y est attentif tout au long de son bouquin, mais moins tout de suite. Alors, dans les années 80, il y a eu une percée du FN à Dreux, et il y a eu un attentat qui a été revendiqué par le SCALP. Donc, c'est la section carrément anti-Le Pen de l'époque, à Toulouse, lors d'un meeting de Le Pen. Donc là, ça a été un coup de fusil. Enfin, pardon, ça, c'est pas très juste comme expression, mais ça a été... Waouh, ça, c'est pas passé. En 87, il y a eu une coordination antifasciste qui s'est créée, la CNAF, qui n'a pas survécu longtemps. En fait, rapidement, au début des années 90, elle s'éteint d'elle-même pour créer trois types d'antifascisme. Là, on est dans le contemporain, hein, par contre. L'antifascisme radical, dont Nopa Saran, en 92, CALP, Reflex, FTP3. Voilà. Des groupes qui n'envisagent la lutte contre les FN que dans le cadre d'une lutte globale contre le système capitaliste et qui pour eux, le système capitaliste paupérise une frange de la société et contre l'État et le système français.
Et qui sont contre les élections.
Et qui sont contre les élections aussi. Ouais, je vais faire court, mais il y aura beaucoup de choses à rajouter. Hein. C'est pas du tout exhaustif ce que je dis. C'est une présentation. Ok.
D'ailleurs, il faut qu'on accélère.
Il faut qu'on accélère. J'ai fini. Hein. Ensuite, on a l'anti-racisme frontiste. Alors, à l'époque, c'était Ralph Front. Alors, c'est vrai que dans les lycées, Ralph Front, ça fonctionnait bien. Bon, à mon époque. Je vous fais pas la définition de Ralph Front. Hein. L'antifascisme électoral. Alors, ça, c'était manifeste contre le FN et SOS Racisme. Qui est antifasciste, enfin qui est antifasciste, enfin oui, bon alors on peut dire qu'il est antifasciste, d'accord, pardon.
Je crois surtout que c'est par les élections qu'on va changer les choses.
Il propose une lutte seulement électorale, tout à fait, il propose une lutte seulement électorale, c'est pour ça que j'avais du mal, enfin voilà, du coup je me suis moi-même, voilà, contre le FN, un vote systématique pour la gauche et le PS, voilà, ça c'est l'antifascisme électoral. Durant toutes les années 90, l'antifascisme est ainsi à la mode et unie et surtout utilisée mais à toutes les sauces. À toutes les sauces, on va avoir des débandades d'antifascistes sans forcément retrouver un socle commun avec une unité comme elle a pu avoir. Voilà, donc maintenant on accueille Camille.
Après cette brillante présentation de l'antifascisme, on accueille donc Camille. Tu es militante à la CGA, la coordination des groupes anarchistes, et tu t'es intéressée aux questions d'antisexisme et d'antifascisme. Est-ce que tu peux nous dire comment est venue cette idée saugrenue de mélanger ces deux thèmes?
Alors l'idée, elle vient de la marche non mixte hein, sur Lyon, donc il y a eu récemment, donc il y a à peu près 2 ans et un an maintenant, deux marches non mixtes. La première a eu un franc succès, mais il y a eu quelques petits débordements justement à cause de la présence de personnes fascisantes, puisque nous sommes allés dans Saint-Jean et que tout le monde le sait, c'est le quartier des fascistes. Et puis, lors de la préparation de la seconde, des choses sont sorties de conversations et de préparations qui clairement disaient, voilà, nous, en tant que féministes radicales, nous ne voulons pas revoir le même scénario, à la fois des FAF en face de nous, mais aussi des antifas qui viennent nous protéger, parce que c'était plus ou moins ce qui s'était passé, et des antifas hommes, en l'occurrence, sur une marche non mixte, ça posait problème. Et vraiment, avec puis tout un discours derrière qui était vraiment, ouais, mais de toute façon, les antifas affinitaires sont virilistes, moi, ça me posait problème en tant qu'antifasciste, et pour connaître aussi des fameux antifas affinitaires que je trouvais pas nécessairement virilistes. Et puis je suis allée voir les antifas affinitaires aussi pour discuter avec eux en disant, oh, je serais bien de discuter avec les féministes radicales, je pense que quand même nous avons des luttes communes et ce serait dommage de pas travailler les uns et les unes ensemble. Et puis bah, là aussi, j'ai eu droit à un discours qui était un peu en mode « Elles ont qu'à venir, nous on va pas discuter avec elles » et tout ça. Donc je me suis dit, bon, bah, dans ce cas-là, puisque moi je trouve qu'il y a quelque chose à faire, autant que je le fasse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser aux femmes qui se revendiquent féministes et qui ont été ou sont à l'heure actuelle dans la lutte antifasciste plutôt radicale, même si c'est quelque chose de compliqué, mais on reviendra dessus après.
Tu as utilisé deux expressions, tu as utilisé les antifa affinitaires et le fait d'être antifasciste. Est-ce qu'éventuellement tu peux resituer comment, quels sont les modes d'organisation un petit peu des antifascistes aujourd'hui?
Je dirais qu'il y a deux modes d'organisation principaux. Le premier, ce que on a appelé antifa affinitaire. Alors ça va être plutôt des petits groupes, plutôt d'amis, de choses comme ça, de gens qui se retrouvent autour d'une thématique principale, c'est-à-dire l'antifascisme, et qui sont parfois politisés, mais pas toujours, malheureusement, et qui vont avoir une durée de vie relativement courte. C'est pas des gros groupes non plus, parce qu'on est entre connaissances, entre amis, donc plus il y a de monde, moins on se connaît. Et donc voilà, la pérennité de ces groupes-là, c'est, je dirais, en moyenne, entre 2, 3, 5 ans maxi. Et ce sont souvent des personnes qui sont jeunes. Par jeune, j'entends entre 15 et 25 ans, quelque chose comme ça. Voilà, parce que ce sont des étudiants qui vont changer de ville, etc. Enfin voilà. Ça, c'est ce que j'appellerais les antifas affinitaires. Et effectivement, on utilise en plus le terme antifa parce que ça fait plus chance. Enfin, je sais, c'était potentiellement pas fait exprès, mais c'est vrai que, bon, voilà, je me suis rendu compte que moi aussi, hein, dans mon langage, j'utilisais le terme antifa quand je désignais les groupes affinitaires. Et puis, il y a le deuxième groupe qui est plus les antifascistes issus de groupes politiques d'extrême gauche ou libertaires, hein, où là, on a à la fois la pensée antifasciste, bien évidemment, mais on a aussi tout un autre mode de pensée sur d'autres thématiques politiques qui vont s'entrecouper les unes avec les autres, avec des groupes organisés qui ont, alors là cette fois-ci en termes de panel d'âge, ça va de 7 à 77 ans, et surtout qui, comment dire, vont être beaucoup plus nombreux aussi. Bon, après, tout le monde dans un groupe politique ne va pas s'intéresser à la question antifasciste, mais voilà, on a un plus grand groupe, quelque chose de plus pérenne de fait, puisqu'on est en groupe organisé politique. Voilà.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être écouter une musique.
Alors oui, c'est la pause musicale. Et la pause musicale, c'est une chanson de Le Tigre.
C'est ça.
Et tu connais le titre de la chanson?
Pas du tout.
Donc c'est la 4.
C'est la 4, je connais pas l'album non plus.
Ah d'accord, bah, c'est une surprise, on va voir.
Antidote, l'anticorps, la doublure, le doublon, canoncier dans le double fond, le fond fuyant le mirage, dans lequel les chiens de garde n'apercevront que leur image, le plus... Exacte réplique.
au carbone 14, certifié authentique. Mon vrai mesure cathartique a pris le maquis acoustique. Ici la périphérie est au centre.
Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, c'est l'émission Angle Mort. Et ce soir, on parle d'antifascisme et d'antisexisme. Et on aurait pu peut-être appeler cette émission aussi antifascisme et féminisme. Et donc peut-être une des premières questions qu'on pourrait te poser, c'est quoi la différence entre antisexisme et féminisme? Est-ce que tu peux un petit peu nous éclairer?
Je vais essayer, hein, je garantis rien. Je dirais que le féminisme, ça touche plus à l'ensemble de... Enfin, c'est une vision globale de la domination masculine, alors que l'antisexisme, ça va être plutôt une composante du féminisme. Et ce terme antisexiste, en plus, il a un biais, on va dire, parce que il impose, en fait, à mon sens, une fausse évidence, c'est-à-dire que presque tout le monde va pas, enfin, se déclarera antisexiste, dans la mesure où on va pas admettre en société qu'on est sexiste, ouvertement sexiste, quand même. Et par ailleurs, en plus, le problème de ce terme antisexisme, c'est qu'il est utilisé, par exemple, par les groupes masculinistes, alors c'est des groupes pro-hommes, voilà, et qui se déclarent eux-mêmes antisexistes, mais ils sont antiféministes. C'est, voilà. Oui. Donc c'est un peu compliqué. Et en plus, ce terme-là, antisexiste, il met un petit peu à distance le combat des féministes, je trouve, puisque donc, le mot féminisme n'apparaît pas. Donc on ne sait pas que ça occulte en fait, le côté féminin, femme, le combat des femmes. Voilà, globalement, voilà la différence que je vois entre féminisme et antisexisme. J'essaie de faire synthétique.
Ouais. Alors moi j'avais une petite question quand même, c'est que moi je me demandais en fait comment les femmes elles venaient, désolée, venaient, c'est difficile ce soir. Alors comment les femmes elles venaient dans les groupes antifascistes? Alors pourquoi cette question naïve? Parce qu'elle peut être prise de façon très naïve. Moi j'avais plus dans ma représentation chez les antifas qu'en fait on venait quand on était la copine de, la sœur de. Ouais, la copine, voire la cousine, bon d'accord. Mais quand il y avait un lien en fait qui nous unissait à un antifa, et que finalement, alors j'ai bien vu maintenant que dans différents groupes on pouvait être coopté chez les antifas, hein, enfin voilà, donc différents groupes libertaires plus. Mais du coup je voulais savoir quand même comment on venait en fait. Ça me semblait important dans sa position de femme, voire féministe, dans un groupe d'antifa.
Alors, c'est un, ouais. peu, un peu compliqué, mais en plus, c'est hyper casse-gueule comme question.
Ah,
je
vais
perdre des amis, moi.
Non.
Alors, récemment, il y a eu, enfin, il y a un monsieur qui a fait une thèse là-dessus. Et,
ah oui.
Ouais, mais du coup, enfin, on voit une vidéo et qui est pas terrible en plus, et puis il est mauvais à l'oral, et où il explique que globalement, effectivement, ce que tu disais, hein, les femmes viennent parce qu'elles sont la copine d'eux essentiellement, ce qui est pas forcément le cas. Là-dessus, je suis pas d'accord, clairement. Les filles qui vont venir à l'antifascisme par des groupes politiques, c'est parce qu'elles se sont politisées, machin, tout ça, nanana. Les filles qui vont venir dans des groupes antifascistes affinitaires, il y a un certain nombre, oui, effectivement, qui vont être cooptées au même titre que les garçons. Il va falloir faire preuve de certains talents, entre guillemets, pour pouvoir rentrer dans un groupe antifa. Il est possible, mais ça, là-dessus, c'est une question, je n'ai pas la réponse, et ce n'est pas une affirmation, il est possible qu'effectivement, elles aient plus à montrer. Parce que filles, que parce que c'est, si c'était des gages, mais ça c'est une, voilà, c'est possible. Il est évident qu'il y a des filles qui rentrent dans ces groupes parce que leurs copains y sont et que par effet de mimétisme, voilà, mais comme dans n'importe quel groupe en réalité, hein, pas plus celui-là qu'un autre. Voilà, donc je sais qu'il y a des nanas qui sont allées frontalement, enfin faillamment, vas-y, moi j'ai envie d'en être, point barre, quoi.
D'accord. Voilà. Ok. Très bien.
Et alors, du coup, peut-être le corollaire, alors je ne sais pas si on peut employer ce mot, mais c'était surtout pour faire plaisir à la causerie, qui aime bien qu'on emploie plus, des mots de plus de 3 syllabes. Alors là, il y en a juste 3 syllabes, pardon, pour la causerie. Mais comment justement est abordée la question de la femme, en fait, dans les groupes antifascistes? Parce que finalement, c'est un petit peu ce qui nous réunit ce soir. On voulait un petit peu t'interroger là-dessus. Est-ce que c'est une question importante? Est-ce que c'est une question annexe? Ou... est-ce qu'au contraire, on occulte en fait cette question?
Alors, pour ne pas être essentialiste, je dirais les femmes. Pour commencer.
Ah oui, pardon. Il y a plusieurs femmes.
Non, Comment est abordée la question du féminisme et de la présence féminine dans les groupes? Je dirais de différentes façons. C'est, en fait, la question féministe se pose dans les groupes antifascistes, quels qu'ils soient, affinitaires ou groupes politiques, mais plutôt en miroir, enfin en pointant du doigt, pardon, pas en miroir, mais en pointant du doigt l'antiféminisme, le sexisme des groupes fascisants, quels qu'ils soient. Voilà, on va plutôt s'intéresser à ça, quelle est la place des femmes dans l'extrême droite, tatatitatata, et bon, bref. Et assez peu de questionnements en interne, donc dans les deux groupes, hein, sur comment ça marche nous chez nous, quels sont nos modes de fonctionnement, etc. Ce qui est une vraie question, en fait, et quelque part un peu un problème, parce que la poutre, la paille, tout ça, quoi. voilà. Alors, il y a dans certains groupes politisés, comme on l'a dit précédemment, hein, comme il y a des questions qui sont transversales, le féminisme, normalement, dans les groupes politisés, en dehors de certains que je ne citerai pas, quand même, la question féministe fait partie de la politique du groupe politisé. Et donc, des filles peuvent ramener ça sur le tapis assez régulièrement. Voilà, on en parlera à la fin de l'émission, de ce qui peut justement être amené par ces filles autour de la question féminisme et antifascisme. Par contre, dans les groupes affinitaires, effectivement, le principe du groupe affinitaire, ça va quand même être de se retrouver autour d'une seule question, globalement, qui est l'antifascisme, et à amener une nouvelle question, une nouvelle problématique autour de comment ça se passe avec les filles, etc. Bah, ça peut être le grain de sable qui va casser le rouage, le rond du groupe et poser problème. Et donc, potentiellement, on peut aussi mettre de côté cette question ou mettre de côté la personne qui a amené cette question. Enfin, c'est potentiellement, bien évidemment, je n'ai pas de faits avérés autour de ça, bien au contraire. Voilà, et par ailleurs, on s'est quand même rendu compte que globalement, dans les groupes, en tout cas politisés, effectivement, les femmes sont quand même relayées à des tâches qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire le compte-rendu de la réunion, préparer l'ordre du jour de la réunion, faire la trésorerie du groupe, etc., etc. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans certains groupes organisés, alors ailleurs, puisque là, j'ai en tête Paris, par exemple, mais il y a un questionnement qui est en train de se mettre en place. Dans certains groupes qui existent à l'heure actuelle.
Voilà. Et est-ce que du coup tu verrais une spécificité quand même au niveau de peut-être d'une posture qui va être souvent qualifiée de viriliste ou d'une forme d'usage de la violence assumée ou justement ce qui peut être aussi le cas, parce que moi je serais plutôt ou au fait non, c'est ni plus ni moins que ce qu'on va trouver ailleurs dans les autres groupes politiques, ce que tu disais là, mais...
Par posture viriliste, tu veux dire plutôt dans les groupes antifa affinitaires que dans les groupes politisés ou...
Oui, voilà.
alors, ça c'est le gros point d'achoppement des unes avec les autres, souvent, là-dessus, justement, où la critique féministe veut que, et dit que, effectivement, les groupes antifa affinitaires, mais pas que, attention, parce que j'ai des exemples aussi d'autres groupes politiques très bien structurés qui, tout d'un coup, pètent des plombs, on va dire. Donc, il y a des attitudes virilistes, donc que c'est pas possible et que c'est la raison pour laquelle les luttes, justement, ne peuvent pas être ensemble, c'est-à-dire des groupes féministes avec des mecs, et pas que des mecs, hein, parce qu'il y a des nanas qui sont virilistes, faut pas l'oublier non plus, hein, et toute fille n'est pas féministe. Et c'est pas parce que, par exemple, dans un groupe, quel qu'il soit, affinitaire ou politique, il y a une fille que, forcément, d'un coup, on devient féministe, hein, loin de là. Donc oui, il y a des postures physiques d'autodéfense, de choses comme ça, qui donnent ce ressenti viriliste. Pour autant, en fait, c'est toute la question de la violence, en réalité, liée à l'antifascisme. Et ça, cette question de la violence, c'est une question qui est genrée en réalité. C'est-à-dire qu'en gros, on a appris aux garçons à se battre et à ne pas pleurer, et aux filles à être de gentilles infirmières et à soigner les bobos, en faisant des bisous. Et important. Et en fait, voilà où est le nœud du problème. C'est-à-dire que c'est à nous aussi, en tant que nanade, à nous réapproprier cette violence, à apprendre aussi ces gestes d'autodéfense, à savoir malheureusement aussi nous imposer. C'est pas évident, on est dans une société quand même hétéro-patriarcale qui nous impose des codes. Et même si on est dans des groupes libertaires ou d'extrême gauche et où tout le monde se dit oui, il faut casser le patriarcat, c'est caca, n'empêche qu'on retrouve quand même ces vieux réflexes parmi nos camarades et nous-mêmes. on a en nous, en tant que femmes, ancré ces réflexes en nous. Et donc, c'est important à nous aussi, en tant que nana, d'apprendre à avoir ces postures, à faire notre place. Et voilà. Même si je ne pense pas, ben moi, c'est à titre personnel, par contre, je ne crois pas que aller à la basson, ce soit nécessairement la meilleure solution. Voilà.
Mais du coup, tu essayes de dire que parfois, dans certaines actions, en fait, les filles seraient mises à l'écart de la partie un petit peu à l'écart du feu, on pourrait dire.
Bah là, j'ai deux exemples flagrants, on va dire. Le premier, c'était une manif pour la défense de l'IVG sur Lyon, quand l'IVG, enfin le centre IVG était encore à l'Hôtel Dieu. Et en l'occurrence, il y avait une petite manifestation, hein, on n'était pas 15 000 non plus, avec un petit service d'ordre qui, tout d'un coup, a observé trois prieurs de rue et quatre fachos qui les protégeaient. Donc, il n'y avait pas non plus foule. Et à ce moment-là, tout d'un coup, tout un groupe d'hommes, clairement, hein, se sont précipités pour faire une ligne. Il y a deux nanas qui ont voulu faire partie de cette ligne, parce qu'il n'y avait pas de raison, elles faisaient aussi partie du service d'ordre, et elles ont été boulées de cette première ligne. Voilà, fin de non-recevoir, tu es gentil, c'est un problème d'homme. Et avec ces hommes qui hurlaient, mais véritablement hurlaient des slogans féministes. C'était complètement lunaire. Même histoire récemment sur Paris, pendant l'été, une manifestation en hommage à un jeune homme qui a été tué dans la Seine. Il y a 40 nazis, clairement, qui débarquent pour aller taper les groupes antifa. Et pareil, les filles se sont retrouvées derrière à s'occuper des blessés. Donc oui, il y a de temps en temps ce genre de choses. Pour autant, par exemple, à la manif non mixte, la deuxième, cette fois-ci, il y a eu effectivement là aussi des fachos qui ont débarqué. Pour autant, donc, il avait été décidé une action collective qui a été mise en place. Et vous avez. Enfin, c'était assez magique parce qu'il y avait 200 nanas qui étaient en train d'arriver sur. Ils étaient trois, je crois, sur trois fachos qui étaient bloqués contre les murs. Et ces jeunes hommes qui ont flippé quand même, faut bien le dire, ont été exfiltrés par la police. Donc, il est possible, en tant que femme, d'avoir une réponse collective aussi. De défense.
On va écouter encore une musique ?
Ouais, on va se faire une pause musicale et justement pour revenir, je pense que ça sera la suite sur les perspectives plus collectives et organisationnelles pour développer ce renversement des rapports sociaux de sexe habituels.
Donc, une petite musique et j'ai retenu que la femme ne faisait pas que des bisous, mais j'espère qu'elle elle danse le samba.
Et le
samba, pardon, le samba. Alors vous vous souvenez, j'espère, de cette chanson de Gotener. Alors là, c'est la version Louise Michel. Louise Michel, j'espère que ça va vous plaire. Et c'est voilà, on est de retour dans l'émission Anglomar Arthur. Et donc, on vient d'écouter les Louise Mitchell qui ont rajouté des guitares sur ce morceau que vous demandiez tous de Richard Gottener.
Non.
Samba. Et on va terminer sur quoi d'ailleurs ?
Eh ben, on se demandait un petit peu si ça avait été compliqué du coup de faire cette enquête. Est-ce que ça a été difficile vu que ça pose des problèmes un petit peu ?
Alors, c'est une enquête qui n'est pas terminée déjà, parce que sinon j'aurais un tout petit nombre de personnes que j'aurais pu enquêter. Non, ça se dit pas ça. rencontrer, pardon. Et du coup, oui, c'est quelque chose de relativement complexe. C'est-à-dire qu'au tout départ, moi, mon objectif, c'était de faire uniquement sur les groupes antifa affinitaires, donc ces fameux petits groupes dont je parle. Mais comme il a été dit précédemment, ce ne sont pas des groupes qui sont pérennes. Et comme, alors, en règle générale, en politique, il y a très peu de nanas. Et plus on va sur des choses un peu, justement, parler de la violence et du genre, ben là-dedans, on va retrouver encore moins de filles, et encore moins de filles qui s'intéressent à l'antifascisme et au féminisme. Donc du coup, c'était vraiment quelque chose d'excessivement compliqué, ce qui fait que je me suis un peu ouvert aux groupes plus organisés, dirons-nous. Pour autant, c'est pas simple. Parce que, bah, voilà, nouveau, hein, les filles ne s'intéressent pas nécessairement au féminisme. Et puis, pour autant aussi, on peut avoir un rapport particulier avec la gente masculine qui n'apprécie pas nécessairement que quelqu'un vienne fouiller, qu'il faut quand même montrer patte blanche, etc. Que parfois, il faut être coopté, et souvent par un gars. Et moi, ça me pose problème à titre individuel, pour pouvoir approcher des filles. Donc c'est quelque chose qui est quand même relativement compliqué. C'est quelque chose que je poursuis, en tout cas à l'heure actuelle. J'ai réussi à rencontrer quelqu'un qui a été membre du SCALP à Nantes il y a bien maintenant une vingtaine d'années, qui en a un retour très positif. Par contre, il ne faut pas penser non plus que sous prétexte qu'elles sont féministes et elles ont été dans des groupes antifascistes, elles sont toutes aigries, contrairement à ce que beaucoup pensent, bien au contraire. J'ai rencontré aussi quelqu'un de la CAPAB, qui est un groupe sur Paris, quelqu'un qui est aussi avec un regard critique, mais qui dit que ça avance, et je l'apprends tout à fait. Donc voilà, je vais bientôt rencontrer quelqu'un sur Grenoble. Enfin voilà, c'est petit à petit, ça avance. Et j'ai plutôt quand même du retour positif, avec effectivement une critique qui a déjà été citée précédemment. Voilà.
Et du coup, pour finir, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des pistes de réflexion, de mode d'action qui permettraient de rendre moins sexistes les antifascistes.
La révolution sociale et libertaire, non,
tu peux répéter, s'il te plaît.
Pardon. Non, alors effectivement, il y a quand même des pistes qui existent. D'abord, alors par exemple, justement, à la CAPAB sur Paris, il a été décidé d'abord que les filles puissent aussi se réunir en groupe non mixte pour pouvoir discuter avant de faire des réunions en groupe mixte. Que certaines filles, enfin, que sur certains sujets, ce soit une fille qui prenne la parole en premier, parce qu'elles se sont rendues compte qu'une fois qu'il y avait quelqu'un qui avait pris la parole en premier, une fille qui avait pris la parole en premier, ça libérait la parole des autres filles. Alors que si c'était un homme, et ben ça les bloquait. Il y a ça. Il y a aussi de prendre les temps de parole, c'est-à-dire limiter les temps de parole de tous et toutes sur une réunion mixte à, mettons, 3 minutes, pour éviter, parce que souvent les hommes aiment prendre beaucoup la parole très longuement. Donc c'est un peu... voilà. Et une fille qui va passer derrière va avoir un temps beaucoup plus court, enfin, va utiliser beaucoup moins de temps en règle générale. Ça, c'est surtout sur les modes de fonctionnement imposés que, bah, les ordres du jour, les choses comme ça tourne, que ce soit pas systématiquement la même personne, qui, donc, comme on l'a dit précédemment, une fille. Voilà. Pour ce qui est aussi de tout ce qui est service d'ordre, enfin, autoprotection lors de manifestations et ce genre de choses, forcer les groupes à ce qu'il y ait des choses mixtes. Alors, pas en mixité absolue, c'est-à-dire 50-50, c'est pas possible, c'est rarement possible plutôt. Ça arrive, hein, mais c'est rarement possible. Mais au moins qu'il y ait quelques filles dans chaque membre du service d'ordre, ça c'est quelque chose d'important. Que les personnes référentes puissent être aussi des filles, et pas que des mecs. Qu'il n'y ait pas de remise en question, et que ce soit les choses soient bien posées, qu'il n'y ait pas de remise en question, parce que sous prétexte que c'est une fille, eh ben, elle saura moins faire et tout. C'est elle qui dirige, et point barre. Et puis des formations aussi, ça a été fait. Alors moi je suis aussi membre du collectif de Vigilance 69 contre l'extrême droite, Boukaka. Et donc.
Oui,
si, parce qu'il y a les sauces dedans.
Oui.
Voilà, et donc il a été imposé, enfin il a imposé, non pas vraiment, hein. Il a été dit qu'il fallait faire une formation unitaire pour qu'on sache comment on réagit les uns les autres, les unes les autres, et cette formation à l'autoprotection a été faite par des filles, ce qui a amené beaucoup plus de filles justement à cette formation, parce qu'elles se sentaient plus en confiance, etc. Et puis bah, toujours, enfin je vais revenir sur ce que j'ai dit précédemment, tout ce qui est de l'autodéfense individuelle aussi, donc là il y a des cours d'autodéfense et d'autonomie qui sont vachement bien, qui sont faites par des copines féministes, ça c'est vraiment apprend, ça apprend le fameux empowerment, comme on dit. Alors, ça veut dire augmenter sa puissance et sa capacité d'action, si on devait le traduire. Mais voilà, ça c'est tout un tas de choses. Et puis c'est tout un tas de choses. Et puis voilà, amener la discussion, parce que même si on est dans de l'antifascisme, etc., et ben, il faut imposer cette discussion à un moment donné, je pense.
Tu n'irais pas jusqu'à dire que des groupes non mixtes seraient une solution à...
Des groupes affinitaires non mixtes, tu veux dire? Alors moi je dirais pourquoi pas, avec le retour moi en tout cas que j'ai eu l'an dernier, c'est-à-dire qu'en faisant ce genre de choses, on divisait la lutte et que les filles feraient mieux de rentrer dans les groupes affinitaires existants déjà. Et qui sont pas mixtes, enfin qui sont mixtes pardon.
Qui sont mixtes.
Excusez-moi.
Ou non mixtes mais masculins.
Voilà, mais ça c'est la non-mixité assez classique qu'on va retrouver en politique effectivement. De fait c'est non mixte parce qu'il n'y a que des mecs. Voilà.
D'accord.
Très bien.
Pour une fois, on déborde pas.
Il y a Eric qui voulait nous faire une petite annonce.
Ah oui, il y avait une.
Mais on peut faire une petite musique avant. Hein. Enfin,
non, on va faire l'annonce tout de suite, comme ça on laisse à la causerie s'installer tranquillement. Non
bah, merci Camille.
Merci à vous.
Merci avant au cas où qu'on se revoit pas.
Et du coup, on peut trouver l'article que tu as écrit dans co-écrit. Dans Info Analyse et Libertaire, qui est le bulletin mensuel, semestriel, trimestriel de la CGA, qu'on mettra sur le blog de l'émission.
Et du coup, je sais plus, je fais l'annonce maintenant.
Oui,
en fait, il y en avait deux. Déjà, pour dire autodéfense et autonomie dont tu viens de parler, on aimerait bien un jour les avoir à cette émission, c'est en projet. Et puis, donc, l'autre annonce, c'était tout simplement notre historien du rock à nous, notre Philippe Manœuvre à nous, qui organise dans le cadre de son travail, il va y avoir Luc Dardenne, donc cinéaste, qui a fait notamment Rosetta, le gamin au vélo, j'ai plus tous les titres en tête, mais
le gamin au vélo, c'est pas un titre.
Le garçon au vélo.
Non, c'est l'enfant ou le fils, je sais plus. Enfin, c'est deux titres aussi de
Morveau
film.
Au vélo.
Non, mais il y a pas un truc où il y a pas le gamin au vélo. Il y a Rosetta, il y a qu'est-ce qu'on n'a pas dit.
Il y en a plein, des très bons films, et donc qui va passer samedi prochain à Lyon, à la Maison du Livre et de l'Image et du Son. Et d'autres choses encore, je crois. Enfin voilà, à Villeurbanne, et ça serait autour de 17h30, 17h, quelque chose comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, le cinéma social, pas hésiter à aller écouter Luc Dardenne.
Okay. Très bien, et ben merci à Camille encore, et on va finir par une petite. Par un petit morceau, je ne sais pas ce que c'est. Alors, si ça vous plaît, envoyez-nous un petit message sur le blog, et on vous donnera les coordonnées.
Ces inconnus qu'on ne connaît pas, on ne les voit guère, chacun.